Alors, l'actualité cette semaine, elle a été marquée par l'adoption de la loi sur la fin de vie, la réforme sociétale la plus importante depuis le mariage pour tous en 2012-2013. L'Assemblée nationale a adopté donc en première lecture la proposition de loi qui crée une aide à mourir. Il y a eu 305 votes pour et 199 votes contre. Les députés ont également adopté à l'unanimité une autre loi relative, celle-ci, aux soins palliatifs. Adopté donc à l'unanimité. Les deux textes seront examinés au Sénat, a priori à l'automne prochain, pour une adoption définitive d'ici 2027. Donc on est encore loin de l'entrée en vigueur définitive. En tout cas, c'est ce que souhaite la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Les groupes politiques à l'Assemblée nationale n'ont pas donné de consigne de vote. Pour autant, est-ce que les clivages au sein d'un parti n'auront pas de conséquences quand même? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, comme clivage au sein des partis? Climarx, t'as vu, notamment à gauche, ce qui se disait dans les groupes?
Oui, après, je crois qu'en l'occurrence, je crois que LFI, ils ont soit tous voté pour, soit il y en a quatre qui sont abstenus, un truc comme ça.
LFI, il y en a un qui a voté contre.
Non, c'est Sophia Chikirou qui, depuis, a rectifié en disant qu'elle voulait s'abstenir.
Ouais. Elle s'est trompée de bouton?
Je sais pas, moi, je suis allé sur le site de l'Assemblée tout à l'heure et il y avait un petit icône pour dire qu'il y a un problème sur le vote Chikirou. Voilà.
Ouais, je crois qu'elle voulait s'abstenir. Ouais, je crois qu'il disait que personne n'avait voté contre.
En tout cas, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que c'est une loi qui a été votée par la gauche et par les macronistes. Les macronistes un peu plus divisés que la gauche.
Ouais, ils étaient grave divisés pour le coup.
Pour le coup, vraiment divisés, effectivement. Et l'extrême droite, elle, semble-t-il, plutôt unanime, en opposition à la proposition de loi. Quoi.
Ouais, je crois que les seuls qui ont voté tous contre, c'était Ciotti.
Ouais, c'est ça.
L'UDR. Ouais. Dans la gauche démocrate et républicaine, donc chez les communistes, il y a eu un seul vote contre. Chez les socialistes, il y a eu quatre votes contre. Ouais. Chez les écologistes, il y a eu un seul vote contre.
Ouais. J'ai regardé un petit peu les justifications de ces députés socialistes, notamment, c'est dans Le Monde, ils racontaient, et ça rejoint à peu près ce que je disais il y a deux semaines, c'est-à-dire ça reprend un petit peu l'argumentaire des associations d'handicapés aussi, quoi, qui disent c'est en train d'ouvrir une voie où on va envoyer en fait les plus vulnérables assez vite, c'est comme ça que c'est passé dans les autres pays, on va comme ça se débarrasser des gens qui se disent eux-mêmes qu'ils vont commencer à devenir des charges. Les EHPAD aussi, c'est cher, c'est une charge pour la famille, etc. Quand t'as une maladie lente, dégénérative, où tu peux te dire, voilà, ça, je vais libérer ma famille comme ça. Et ça va retomber sur les... J'ai vu qu'il y avait des doutes aussi. Christophe Bex, qui est un proche plutôt de Ruffin, chez les Insoumis, a aussi émis des doutes. Ruffin a dit qu'il en avait aussi, mais qu'il a voté quand même. Bon, ces arguments n'ont pas percé vraiment jusqu'au... Vraiment, la gauche l'a pas discuté, ça, tellement,
ouais,
entre eux. J'ai l'impression qu'il y avait l'urgence de voter cette loi parce que ça allait être un progrès. Il n'y en a pas souvent des progrès. Et puis, vu que c'est un progrès, il faut le voter.
Puis la
vu que l'extrême droite est contre, on vote pour. Enfin, il y a un peu de... Ça a été un peu mécanique comme...
Et la mobilisation antivalidiste a été assez tardive par rapport à la mobilisation en faveur de la loi pour l'aide à mourir qui, elle, remonte à plusieurs années.
C'est vrai.
La DHD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, la DMD, elle agit, elle fait un vrai travail, y compris à gauche, depuis des années et des années et des années. Et là, c'est vrai que la mobilisation est arrivée peut-être un peu plus tardivement.
Ouais, mais...
Climax ?
C'est un peu dommage, en fait, parce que c'est vrai qu'on a entendu les voix des associations antivalidistes sur le tard, et je pense que ça a beaucoup, mais moi y compris, je pense qu'à gauche, de base, on est un peu tous et toutes... pour le droit à mourir un peu par principe. Et puis en fait, justement, le fait que les associations antivalidistes aient pris la parole sur ces dernières semaines, ça m'a fait vachement questionner du coup ce que je pensais du droit à mourir. C'est ce que disait Usul sur le fait que c'est pas en soi tant que ça le texte en question, mais les risques qu'on peut observer dans les autres pays d'étendre la loi à des personnes notamment handicapées ou psychotiques ou autres, ce qui serait évidemment une catastrophe. J'ai beaucoup entendu dans les médias les journalistes, les médecins, etc., dire que c'était une rupture anthropologique, que c'était une question philosophique. Et en fait, je trouve que, enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je déplore que ça ait été traité de cette manière-là, puisque en fait, la question, c'est vraiment une question qui est purement matérielle. Dans quelles conditions matérielles, quelles sont les conditions matérielles d'existence peuvent amener quelqu'un à demander une aide à mourir? Et c'est pas une question de rupture anthropologique, quoi. C'est pas ça l'enjeu de la discussion qu'on aurait dû avoir. Et c'est un peu dommage que ces voix soient pas arrivées jusqu'à la gauche.
Ça peut être les deux, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
C'est un vieil argument, la rupture anthropologique.
Ouais,
c'est
pareil pour le mariage pour tous, d'ailleurs, il me semble.
Voilà, le mariage pour tous, il y avait ça.
Rupture civilisationnelle, je m'en souviens.
Ouais, civilisationnelle, anthropologique. Ouais. L'idée, c'est de dire qu'on brise une continuité. Là, on sera même plus exactement l'humanité si on fait ça. Et bon, c'est un vieil argument, mais c'est vrai que à l'extrême droite, ils ont eu l'idée de dire, bon, ils sont plutôt tous majoritairement contre, à titre individuel, mais pas donner de consigne parce qu'ils sentent sentait que dans la population, il y avait, surtout depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, l'affaire Vincent Humbert.
Ouais.
Si vous vous souvenez, c'était bien il y a sûr. Quand même un petit peu longtemps, mais c'était quelqu'un qui avait perdu, je crois, suite à un accident, beaucoup de ses facultés, y compris la vue, la capacité de communiquer, etc., et qui demandait, qui a été accompagné par ses parents. Je crois qu'il y a eu une aide à mourir, pour le coup, de ses parents. Ça s'est terminé, il me semble, au tribunal, et il a été relaxé. Je crois, je sais plus.
Ouais, il me semble que les parents voulaient pas. J'ai plus le truc.
Ou l'inverse. Les parents, ses parents voulaient pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé,
etc., et que c'était sa compagne de mémoire qui.
Voilà, tu vois. Bon. Et donc du coup, ça a basculé. Ça a vraiment fait basculer l'opinion. À l'époque, il y avait Chirac qui avait réagi. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'opinion a plutôt basculé là-dessus et que le RN n'a pas pris le risque de. Mais de toute façon, c'est ce que fait beaucoup le RN sur les sujets de société. C'est suivre le sens de la population générale et de se concentrer sur son cœur de métier qui est le racisme. Mais alors, tout ce qui est, voilà, les évolutions, les grandes évolutions de la société, ils essaient d'y aller mollo, même s'ils restent, eux, au fond d'eux-mêmes, profondément convaincus qu'il ne faut rien toucher, quoi.
Alors, dans les débats à l'Assemblée nationale, il y a une des prises de parole de la députée Sandrine Rousseau, qui ont beaucoup ému les gens. Tu peux en parler, Emilio ?
Elles ont beaucoup fait parler. Sandrine Rousseau, à un moment, elle a été très, très active elle, pendant ces débats. Et elle a pu être, à certains moments, heurtée par des arguments qui lui étaient opposés de ceux qui étaient contre cette loi. Et elle a dit qu'elle n'avait pas prévu d'en parler, mais qu'on l'y contraignait de parler de ce qui s'est passé avec sa maman. Avec sa mère.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Et en fait, sa mère, elle avait une maladie très grave. Elle a énormément souffert. Elle a été assez peu accompagnée. Et Sandrine Rousseau raconte qu'elle avait accumulé pendant des semaines tous les médicaments qu'elle ne prenait plus pour un jour, à un moment où Sandrine Rousseau était dans le train pour venir la voir d'ailleurs, avaler tous les médicaments et mourir dans d'atroces souffrances. Et qu'elle n'avait pas pu dire au revoir à sa mère et que sa mère n'avait pas pu lui dire au revoir, qu'il lui manquait des mots, notamment le mot « je t'aime ». Et qu'en fait, elle vivait avec cette culpabilité-là aussi en tant que fille, parce qu'elle a vu sa mère souffrir, qu'elle ne pouvait rien faire. Et alors, j'imagine qu'il y a eu des prises de parole assez fortes, parce que j'ai pas suivi l'entièreté des débats aussi, du côté des personnes qui s'y opposent. Mais moi, c'est le témoignage de Sandrine Rousseau, je l'ai trouvé assez poignant aussi, parce qu'elle a fait surgir l'intime dans les débats de l'Assemblée nationale, ce qui est rare, où on nous dit souvent que l'intime n'est pas politique. La droite, en général, veut reléguer l'intime dans la sphère uniquement privée et de voir des députés qui s'expriment aussi sur des cas personnels, parce qu'en fait ça relève aussi de la morale personnelle et des expériences passées, ça a été quelque chose d'assez fort. Voilà.
Il y a un truc qui a été relevé par absolument tous les observateurs, c'est que les débats autour de cette loi ont été de bonne tenue. Pourquoi c'est important de le souligner ? Qu'est-ce que ça dit de notre Assemblée nationale, voire de notre vie politique, le fait que sur un sujet aussi grave et aussi important, les députés ont été d'un haut niveau dans leurs échanges, dans leurs dialogues, dans le respect qu'ils ont les uns envers les autres. On pourrait imaginer que ce soit la foire d'empoigne, particulièrement sur ce genre de loi-là, avec une bordélisation sur quelques bancs, quels qu'ils soient.
Ça l'avait été pour le mariage pour tous, par exemple. C'est pas le même type de loi, hein. Mais c'est sur les lois sociétales où il y a beaucoup de... Le mariage pour tous, ça avait été une catastrophe sur la façon dont les débats avaient été conduits par la droite qui faisait n'importe quoi. Et là, peut-être parce que justement, c'est quelque chose qui transcende les clivages. Et donc, il y avait moins aussi de besoin d'avoir une position très caricaturale et que tout le monde avait compris l'enjeu du débat. Voilà, je sais pas.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Vu le climat actuel, ce serait du suicide ». Politique que de bordéliser une séance de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Vous pensez que c'est ça ou croyez que les Français les regardent et qu'ils se sentent tenus ?
Non, je pense pas que ce soit ça.
Non, je pense qu'ils ont pris le sujet un petit peu au sérieux, voilà. Et c'est quand même assez rare que cette assemblée ait le loisir de travailler aussi, tout simplement. C'est aussi ça qu'on est en train de redécouvrir. Waouh, il va y avoir vraiment les navettes parlementaires, vraiment les amendements. Ça va pas être bazardé, pas de 49-3, ça va pas se régler en commission mixte paritaire à la ZOB. Non, tiens, pour une fois, on a laissé faire le travail parlementaire. Parce qu'on est en train de se rappeler que, ah oui, tiens, c'est ça le travail parlementaire, en fait. Il y a un peu de ça aussi.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Parce que là, c'est pas, en effet, le gouvernement avance pas à la bourrine avec une idée en tête, la volonté de brutaliser, etc. Là, on voit aussi ce que ça donne, l'Assemblée, quand le gouvernement n'a pas décidé de tout, que ça file droit, quoi.
Climarx, c'est un sujet, la fin de vie, qui a soulevé des questionnements assez importants, assez, pas seulement intimes, mais aussi assez importants sur le rôle des médecins, je crois.
Ah oui.
Copains, les médecins, là.
Ouais, alors ouais. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là, sur l'UMA où on parlait des médecins. Ils ont pas kiffé, donc je vais encore pas me faire désolé les médecins. Mais oui, mais en fait, le truc c'est que quand tu Moi, il y a quelque chose aussi qui me questionnait avec cette loi, c'est aussi le rôle encore central qui est pas du tout questionné du médecin et donné. Enfin, donc, du coup, la fin de vie c'est conditionné à l'accord d'un médecin. Et là, aujourd'hui, il y a eu le verdict du procès de Skouarnec qui a été condamné du coup à 20 ans de prison. Il a été mis en cause par presque 300 enfants de viols sur mineurs. Et en fait, il faut ces situations terribles qui se multiplient ces derniers temps dans les médias, que ce soit voilà le procès Mazan, tous les procès d'ampleur qu'on voit, c'est des situations bétarames, c'est des situations qui peuvent advenir parce qu'on a des situations de hiérarchie extrêmement forte et du pouvoir qui sont donnés à quelqu'un et du pouvoir symbolique qui sont conférés à quelqu'un. Et on se retrouve à tant qu'il y aura ces structures hiérarchiquement très fortes, tant qu'il y aura ce pouvoir matériel et symbolique qui sont accordés à ces gens, il y aura toujours des situations comme ça d'inceste ou de violence sur les personnes les plus vulnérables, les mineurs, etc. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment garder en tête dans tous ces débats qu'on a actuellement, que ce soit autour des violences sexuelles sur mineurs ou autour de la fin de vie, etc., de comment est-ce que le pouvoir qu'on accorde à certaines personnes dans des institutions.
Oui, je valide complètement, d'autant plus que maintenant, on commence aussi à parler, alors là, il y aura peut-être une commission d'enquête pour les violences, sur les violences médicales, dans le cadre médical. Commence à y avoir aussi maintenant des articles qui parlent du racisme dans l'hôpital, de la maltraitance qu'il va y avoir sur les femmes en particulier, sur les racisés en particulier, sans doute sur les enfants aussi, sur les personnes handies aussi, ces violences-là de gens qui peuvent moins tenir tête à un médecin, etc. Comment on contrôle nos médecins, l'ordre des médecins, est-ce que les médecins ils se contrôlent entre eux? On voit bien que c'est un peu défaillant, ils sont capables de laisser continuer à exercer un de leurs collègues alors qu'il a déjà été condamné à un moment,
il savait qu'il avait des images pédopornographiques, il savait qu'il y avait des plaintes, etc. Et voilà.
Sur ce sujet, il y a quand même une évolution ces dernières décennies. Quand même, on a quand même vu le rôle des patients prendre en vigueur. Quand même, on a la loi sur les directives anticipées avant la fin de vie. Là, on a la loi sur la fin de vie qui vient d'être votée en première lecture. Moi, j'ai l'impression que les associations de patients aussi sont de plus en plus écoutées et que l'on réussit à faire remonter tous ces cas aussi parce qu'il y a une forme de libération de la parole et que la toute puissance du médecin est remise en question par des patients qui n'hésitent pas à se défendre. Puis il y a eu Internet aussi qui a un peu changé la donne, la capacité qu'on a à trouver sur un forum des personnes qui ont vécu la même chose.
Parlez-en aux médecins, ils vont dire, moi j'ai les cons là, qui regardent Doctissimo, ils m'énervent toute la journée, ils croient qu'ils savent mieux que moi.
J'ai regardé, pardon.
C'est pas complètement tort.
Non, mais franchement, j'ai regardé beaucoup de TikTok de jeunes médecins quand j'ai préparé ma dernière vidéo sur les médecins là. Et franchement, le nombre de médecins qui font des TikTok de mais en fait j'en ai marre. Vous venez, vous me demandez, j'ai besoin de un arrêt de travail, mais comment ça vous avez besoin d'un arrêt de travail? C'est moi qui décide si vous avez besoin d'un arrêt de travail. Mais tu sais.
Non mais je te l'accorde.
Les médecins sur Twitter, mais c'est insupportable.
C'est infernal.
Ça dépend lesquels.
Non, ça dépend pas lesquels.
Oh, ok, d'accord.
Tous, Christine. Non, mais... tous.
Voilà. Évidemment que ça dépend lesquels, que tous les médecins évidemment sont pas.
Mais non, mais je pense à des jeunes médecins qui font un travail de pédagogie.
Ah, la corporation. Horrible.
Que les jeunes médecins des fois sont aussi cons que les autres. Pas de raison. Ouais, moi j'ai fait 12 ans d'études. Ils sont.
Mais c'est pas un autre hall médecin là, tu vois.
Hein si, non mais pardon de défendre le travail formidable que font des jeunes médecins sur les réseaux sociaux pour faire de la pédagogie, pour lutter contre les dérives et les fake meds, etc. Je sais pas. Je suis d'accord avec vous pour dire que je les ai vus les mêmes TikTok que vous. Ils me sortent par les trous de nez cette espèce de mépris à l'âge de 20 ans, là, vraiment fermé là, c'est absolument insupportable. Mais voilà, je voudrais juste aussi souligner le fait qu'il y a des médecins qui font un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Merci à vous, on a besoin de vous, continuez quoi.
Et après, on peut aussi, allez, pour les soulager un petit peu, on peut dire aussi que les conditions de travail difficiles aussi des médecins vont aussi créer des situations de tension, y compris avec leurs patients. Quand quelqu'un a attendu 8 heures dans le couloir, il est évident que la discussion après va être plus compliquée, que le médecin, quand il enchaîne les gardes, évidemment que ça va être plus compliqué. Mais oui, la relation patient-soignant, elle s'inscrit aussi dans un système de santé.
Bien sûr.
Qui balance les gens aussi les uns contre les autres. Et ça aussi, on pourra l'interroger.
Oui. Et un système de santé qui tient aussi beaucoup sur la volonté des internes, qui sont quand même des gens relativement sous-payés, qui font des heures à n'en plus finir et qui n'ont pas terminé aussi leur formation. Ouais. Et donc, en fait, on les met dans des positions de stress absolu, où on les met en responsabilité parfois sans la présence de médecins seniors, de devoir faire des choix. et donc ça met aussi donc en difficulté les patients qui se retrouvent avec eux. Et c'est pas de leur faute, c'est ils sont encore étudiants, c'est des gens qui continuent d'apprendre, donc ils ont besoin d'être tutorés, d'être encadrés. Et aujourd'hui, le système libéral qui s'applique aux hôpitaux publics pose aussi des problèmes à la fois sur les médecins et sur les patients.
C'est Sarah Legrain, la députée LFI, qui va créer une commission d'enquête, c'est ça, parlementaire, sur les violences sexuelles et sexistes dans le monde médical.
Je crois que c'est les violences en général dans le milieu médical, mais c'est peut-être les VSS.
Oui, parce que les violences gynécologiques aussi. Qui vont...
Là, en ce moment, il y a un procès, là, je crois, dans le 91, sur un gynécologue qui est accusé par, je crois, 250 femmes de viol.
Non, mais d'accord, très bien.
Non, mais c'est un truc vraiment énorme. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut prendre conscience que notre système de santé, enfin, il a énormément de défauts, notamment le fait que la position du médecin est vraiment toute puissante. Et d'ailleurs, je voudrais quand même préciser, hein, les mêmes médecins qui se plaignent d'être... même des médecins qui ont toutes les bonnes raisons de se plaindre dans leurs conditions de travail, hein, mais sont les mêmes qui refusent notamment de donner à des infirmières le droit de faire des premières prescriptions, par exemple, parce que c'est de la concurrence. Enfin, il y a aussi un truc un peu... Enfin, généralement, il faut bien voir que le système de santé est hyper concentré autour de la figure du médecin, et que c'est un problème. Voilà.
Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une autre loi dont on voulait parler également dans ces sujets de la semaine. C'est la loi Duplomb. Il y a eu une magouille parlementaire un peu bizarre qui a eu lieu lundi dernier à l'Assemblée nationale. En gros, c'est une loi qui s'appelle la loi Duplomb, qui a été adoptée au Sénat. C'est une proposition de loi d'origine sénatoriale. C'est un texte qui a été voté en janvier et qui réautorise notamment l'utilisation de certains pesticides pour les agriculteurs. C'est une loi qui propose plein de trucs pour simplifier la vie des agriculteurs, pour le faire simple.
Certains agriculteurs, c'est de l'agro-business, ouais.
J'allais
l'expliquer, mais je ne vais pas l'expliquer. Députés de gauche ont déposé plus de 3500 amendements pour faire capoter l'examen du texte à l'Assemblée. Et pour lutter contre cette obstruction parlementaire, il s'est passé un truc très bizarre, c'est que la majorité macroniste a décidé de voter une motion de rejet préalable du texte, de manière à ce qu'il ne soit pas examiné à l'Assemblée nationale et à ce qu'il parte directement en commission mixte paritaire. Et c'est au cours de la commission mixte paritaire qui sera négocié, que le texte sera négocié avec le Sénat et qu'il pourra être adopté une bonne fois pour toutes à l'Assemblée nationale, mais sans amendement. C'est donc un tripatouillage quand même assez étrange. C'est quoi cette séquence agricole, la Climax ? Ça s'inscrit dans quoi ?
Ouais, en fait, cette loi, en gros, c'est le résultat, enfin, c'est la suite de la mobilisation des agriculteurs de l'an dernier. Je ne sais pas, peut-être que vous vous en souvenez, peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Il y a eu des séquences un peu iconiques.
Attal sur son ballot de paille.
Attal qui s'est terminé par Attal sur son ballot de paille. Et ça avait vraiment fait.
Oh, c'était bien, c'était
ça avait
beau.
Fait date. C'était vraiment iconique, ouais. C'était vraiment marrant. Et ça, c'était. Il y avait eu des grosses tensions, notamment sur l'agriculture. Il y avait la confédération. La coordination rurale. Qui était arrivée, qui a fait éruption. Il y avait Macron qui avait retiré sa veste et tout. C'était intense. Et du coup, ça a été terminé par Gabriel Attal qui avait fait ses annonces. Et en fait, à ce moment-là, cette mobilisation des agriculteurs, il y a quelque chose qu'il faut rappeler dans le monde agricole, c'est que, en fait, le monde agricole a tout intérêt à ce que vous pensiez que c'est un bloc uni et que défendre les agriculteurs, c'est quelque chose de clair qui est porté par des revendications de tous les agriculteurs. C'est absolument faux. Les revendications, à l'époque, elles n'étaient pas claires. Ça pouvait être compris comme ce qui a été le résultat de la loi Duplomb, c'est-à-dire simplifier l'agrandissement, enfin d'aller dans le même schéma que ce qu'on fait depuis 50 ans, c'est-à-dire la modernisation, favoriser l'agrandissement des gros, etc. Ou alors ça pouvait aussi être compris, et il y avait de tout dans cette mobilisation, aussi des critiques envers la gestion libérale et des agriculteurs, notamment des plus petits, qui voulaient qu'il y ait un changement de cap, en fait. Et comme ces mobilisations étaient très diffuses et que les voix étaient assez disparates, là on voit très bien que ce qui se passe, c'est que cette loi, c'est le résultat d'un choix qui a été fait de suivre les revendications du syndicat majoritaire dans la FNSEA, aussi de la coordination rurale, qui est proche du
les bonnets jaunes, les fameux bonnets jaunes.
C'est ça. Mais alors que c'est pas du tout le résultat de ce que demande la majorité des agriculteurs. Cette loi, elle va vraiment favoriser. C'est la loi de l'agrobusiness. C'est un scandale absolu, cette loi, à tous les niveaux, vraiment. C'est vraiment le résultat de la droite, de toute la droite, y compris les macronistes, qui ont choisi de soutenir les revendications des plus gros et des plus forts dans l'agriculture.
Je reviens sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est quand même particulier, Emilio, pour une assemblée, de se départir d'elle-même de son propre pouvoir d'adopter la loi. Et de la discuter surtout.
Je sais même pas si on a déjà vu une telle manœuvre dans l'histoire de l'Assemblée.
Moi, j'ai jamais vu ça.
C'est assez inédit, mais en fait, ça puise ses explications aussi dans les équilibres politiques du moment. C'est-à-dire qu'on a suite aux élections législatives un gouvernement qui a été nommé sans légitimité parce que ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale, mais avec l'appui des Républicains. Et donc les Républicains, désormais, ils sont en position assez puissante au sein du gouvernement, et donc ils peuvent aussi influer sur les politiques qui sont menées, faire du chantage pour dire si vous faites pas ce qu'on veut, on se casse, et donc c'est vrai que ça foutrait Macron et les macronistes dans la merde. Et donc, comme les Républicains, comme les macronistes, mais les Républicains particulièrement, parce qu'ils sont aussi beaucoup dans les circos rurales, ils s'appuient énormément sur la FNSEA. Et donc, quand la FNSEA demande, les Républicains exécutent. Et donc là, comme c'est Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui est elle-même issue des rangs des Républicains, et ben ça passe comme une lettre à la poste, et que ça permet à la fois de gagner du temps, parce qu'ils avaient quand même pas envie de s'emmerder à discuter de 3500 amendements qui étaient l'obstruction parlementaire. Hein. Il n'y avait pas que des amendements intéressants sur le fond
mais pas seulement.
Les macronistes ont quand même fui la discussion aussi, parce que je pense qu'ils veulent pas ils ne veulent pas l'avoir, parce qu'ils se savent en difficulté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette loi, elle détricote des choses que les macronistes aussi ont eux-mêmes adoptées. Donc ça les met quand même aussi dans une situation un peu particulière. Et ils ont maintenant totalement endossé en fait le discours anti-normes qui avait été notamment tenue, tu l'as dit, Ariane, pendant les mobilisations, comme si la norme c'était quelque chose de négatif. Mais faut revenir aux bases en fait de qu'est-ce que c'est une norme. Une norme, c'est quelque chose qui sert à protéger à la fois les gens qui travaillent, parce qu'en fait il y a les travailleurs qui sont dans les exploitations agricoles. Quand on parle des agriculteurs, en soi ça ne veut rien dire, c'est des réalités sociales qui sont extrêmement différentes. Et surtout, à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de patrons agriculteurs, parce qu'en fait il y a une concentration des exploitations, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers agricoles, et en fait c'est ceux-là qui trinquent, parce que c'est eux qui ont la main dans les pesticides, et c'est aussi fait pour protéger les consommateurs, nous, lorsqu'on mange, de ce qu'on se met dans l'estomac, parce que...
Les gens qui habitent à côté aussi.
Les gens qui habitent à côté, évidemment, et tout ça, pourquoi ? Parce que c'est une organisation aujourd'hui capitalistique, donc qui a vocation, de toute façon, à amasser du profit. Et en fait, quand on met des normes, des fois, ça empiète évidemment sur le profit, ça peut empiéter sur les rendements, etc. Et donc pour vous dire aussi que la gauche, en réalité, je suis pas sûr qu'elle avait très envie d'avoir ce débat de l'autre côté aussi, parce qu'en fait ils ont eux une difficulté, c'est à parler aux agriculteurs. Ils n'y arrivent pas, même si ça pèse pas grand chose dans l'électorat. Les agriculteurs, symboliquement, c'est quand même quelque chose de fort, et parce qu'en fait la gauche n'arrive pas à avoir un discours sur la productivité agricole. On leur dit, voilà, et donc en fait ils ne sont pas audibles vis-à-vis des agriculteurs, parce que leur dit, en même temps, il faut qu'on produise pour nourrir les gens, et la gauche n'arrive pas à se saisir de ça. Voilà.
Alors le truc, c'est
on produit trop, après.
On produit pas que pour nourrir les gens. On produit aussi pour exporter. On produit pour faire du biocarburant. On produit notamment les grandes exploitations céréalières. Et c'est ceux-là qui tiennent plutôt la FNSEA, d'ailleurs. Nourrissent pas, font pas ça que pour nourrir les gens. Et oui, donc la FNSEA, faut bien comprendre que le ministère de l'Agriculture est un des rares ministères dont on dit qu'il est un peu géré en co-gestion, si vous voulez, avec ce syndicat historique majoritaire, un petit peu comme en effet, par exemple, au ministère de l'Intérieur, on co-dirige aussi un petit peu avec Alliance et les syndicats de police. Tu peux pas te fâcher trop. Bon, ben, au ministère de l'Agriculture, c'est un peu pareil avec la FNSEA. Et elle est allée loin, Annie Genevard, hein, parce que la FNSEA et les agriculteurs, quand ils gueulent, ils gueulent. Quand ils bloquent, ils bloquent. Quand ils ont décidé de déverser de la merde devant ta permanence, littéralement de la merde, enfin, vous avez tous vu les images, voilà, des tracteurs, machin, ils y vont. Quand ils cassent, ils cassent. Souvent, ils ont des fusils aussi, parce que dans la ruralité, machin, on a des fusils. Donc il y a une ambiance particulière quand tu parles, et quand on les écoute, quand on écoute la manière dont ils parlent, notamment des écolos en particulier, mais même des politiques en général, mais des écolos vraiment en particulier, on a le souvenir de d'élus écolos qui ont été insultés de manière extrêmement sexiste par ces agriculteurs. Donc il y a une colère qui est entretenue, notamment par toute la presse réactionnaire contre les écolos, qui marche très très bien sur les agriculteurs, qui ont l'impression d'être opposés aux écolos, que c'est leurs ennemis naturels.
Et avec un amalgame, parce que juste sur le but, c'est le mot que tu utilises, tu as utilisé le mot ruralité. Mais en fait, ils ont réussi à faire une OPA sur le mot ruralité pour faire l'amalgame, comme si les agriculteurs et la ruralité, c'était la même chose. De même que
les agriculteurs de centre-ville.
Le lobby. Oui, non, mais
tout le monde dans la ruralité n'est pas agriculteur.
Voilà. Non, la ruralité,
bah non, c'est pas grand monde les agriculteurs.
C'est comme la ruralité, ce n'est pas les chasseurs, contrairement à ce que veulent nous faire croire le lobby de la chasse.
Et donc, non, je finis juste sur Annie Genevard, qui a mis de l'huile sur le feu dans le journal Sud-Ouest il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez vu. Elle a dit face aux agriculteurs, allez vous en prendre aux élus de gauche. Parce que les agriculteurs râlaient et elle disait c'est pas moi, c'est les écolos. Et elle a carrément dit, et la phrase a été notée parce qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui étaient là, qui étaient choqués, parce que quand tu connais les méthodes des agriculteurs quand ils sont fâchés, là elle les envoie directement sur
c'est
les
quoi,
opposants.
La phrase
allez vous en prendre aux élus de gauche.
Putain la vache.
Voilà. Et bon, et la phrase a un peu choqué, y compris les journalistes qui étaient présents et les gens qui étaient là. Donc, il y a un climat aussi qui est tendu, et je pense que le gouvernement, là, s'est complètement plié à ces exigences-là, qui sont donc des reculs écologiques. Parfois, des reculs, par exemple, sur les méga-bassines, c'est assez évident que là, par exemple, c'est aussi un combat qui est emblématique contre les écolos. Et voilà. Et ça a été discuté avec la FNSEA, au point que dès qu'il y a eu cette annonce de on va aller en CMP, on rejette le texte, machin. En fait, ça avait été discuté au téléphone aussi. Il y avait eu des consultations avec la FNSEA. Si on fait ça, ça vous va comme plan? Donc ce plan bizarre, cette magouille bizarre, a été discuté avec la FNSEA, qui l'a trouvé tout à fait satisfaisant et qui a dit on range les tracteurs maintenant. Donc voilà, encore une belle victoire de la FNSEA.
Mais c'est vraiment... avant, juste pour rebondir sur la dernière chose que tu viens de dire, c'est vraiment... honteux, mais vraiment, je sais même pas comment. Enfin, moi, ça m'a mis vraiment dans une colère pas possible. Le fait de faire ça, il faut bien se rendre compte ce que c'est. C'est vraiment toutes les droites qui se plient et qui font des magouilles pour répondre aux demandes de l'agrobusiness. Enfin, vraiment, c'est un scandale absolu de revenir sur les faibles acquis qui étaient déjà. Et je voulais juste dire quelque chose sur ces histoires de normes. Donc, les discours anti-normes dont tu parlais déjà aussi un peu, Emilio. En fait, il faut comprendre que il y a de moins en moins de fermes. Il y a de moins en moins de fermes parce que les fermes sont de plus en plus grandes. Et de fait, les agriculteurs, les gros agriculteurs qui gèrent des grandes fermes sont des chefs d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on gère plusieurs centaines d'hectares, il faut qu'il y ait des normes et des contrôles. C'est normal. Il y a des normes qui sont plus difficiles que d'autres pour des petites exploitations. Les normes sanitaires, etc., ça peut être un peu compliqué. Mais les normes, en l'occurrence, qui sont visées par ce texte-là, c'est les normes anti-écolo qui servent les intérêts des plus gros. Voilà. Juste,
au détriment des populations, du taux de cancer dans la population.
Oui,
etc.
Mais au détriment aussi des plus petits agriculteurs.
Et oui.
Moi, je m'inquiète effectivement de cette augmentation d'un discours contre les normes, contre la bureaucratie. L'idée qu'il faut forcément réduire le nombre de normes, que la norme, elle est source de ralentissement par nature, elle est source de décroissance, elle est source de choses que négatives tout le temps. C'est un truc que je trouve particulièrement inquiétant et qu'on entend dans beaucoup de secteurs. C'est un discours qui est un petit peu à la mode. Et alors, pour le coup, les questions agricoles sont des questions sur lesquelles je suis pas du tout carré, hein, bien au contraire. Mais ça fait écho avec des trucs que j'ai déjà entendus dans l'éducation nationale, que j'ai déjà entendu dans d'autres ministères.
Ils veulent moins de normes aussi dans l'éducation nationale.
J'ai déjà entendu des discours disant qu'il fallait foutre la paix aux enseignants et les laisser faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent avec les enfants.
Ça fait Bétarame,
ouais. Hashtag Bétarame. Qu'est-ce qu'on va emmerder les pions dans des internats qui collent des tartes aux enfants? Ils sont payés pour ça.
Ah yes.
Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui considèrent que de toute façon la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise. Hein. Donc à partir du moment où qui considèrent que l'entreprise c'est un monde à part, qu'il n'y a pas d'intervention extérieure à avoir et que c'est le chef d'entreprise, c'est une monarchie pour beaucoup, une entreprise, c'est le roi décide et les sujets exécutent. Donc qui considèrent qu'à partir du moment où c'est dans les murs de l'entreprise, les interventions extérieures sont de fait nocives et elles servent à ralentir. Mais déjà, est-ce que ralentir c'est si grave que ça?
Il y avait les taxis aussi là qui gueulaient. Marrant parce que on dit les taxis, les chauffeurs de taxi. Par contre, on dit nos agriculteurs. Vous trouvez pas que c'est bizarre? On dit pas nos chauffeurs de taxi, non, c'est parce que c'est juste, j'avais noté ça, nos agriculteurs, parce que s'il y a beaucoup de discours démagos autour nos agriculteurs qui font manger la France.
Ah oui, puis tout le monde a des parents agriculteurs,
Et on dit pas nos médecins. On dit les médecins, on les respecte. Tu vois. Ouais. Nos médecins, c'est à nous, c'est les nôtres. Tu vois. C'est bizarre.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je reviens sur le pataquès qu'il y a eu à l'Assemblée nationale avec cette adoption d'une motion de rejet pour que la loi ne soit pas adoptée, qu'elle aille ensuite en discussion avec le Sénat et qu'elle revienne pour n'être adoptée qu'en bloc. Mathilde Panot, la députée LFI, la présidente des députés LFI, a déclaré que c'était une nouvelle forme de 49-3. Alors, je pense qu'il faut pas, not all 49.3. Faut pas mettre que des 49.3 partout tout le temps. C'est plus compliqué que ça. Mais j'aime bien la formule quand même parce que j'ai encore une fois jamais vu ça et que je me demande si ça pourrait être utilisé par le gouvernement pour d'autres textes.
Je sais pas, c'est Macron, prof de droit constite, hein, quand même, depuis 3 ans, là. Il nous a tout sorti, quoi. Et moi, on connaît, maintenant, c'est l'avantage, c'est qu'il fait beaucoup pour l'éducation populaire. C'est que plein de gens qui vont connaître plein de choses de la Constitution, avec tous les sales coups qu'il a fait. Mais, moi, je vois pas pourquoi ils s'en préveraient. Ils l'ont fait une fois. Une fois, en fait, c'est le problème. Ils font toujours ça, ils activent quelque chose qui les arrange au moment où ils sont emmerdés, sans se poser la question de la suite. Sauf qu'en fait, à chaque fois, ils montrent le chemin aussi à l'extrême droite si jamais elle arrive au pouvoir. C'est-à-dire que si demain Marine Le Pen, elle n'a pas une assemblée, enfin Marine Le Pen ou Jordan Bardella, parce qu'elle n'est pas encore en.
Ouais.
Enfin bref, ou le.
Ou même
le,
Retailleau.
Ou, voilà, ou peu importe qui sera là, ils montrent la voie à l'extrême droite pour faire tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est dans une démocratie, parce que la Ve République, telle qu'elle est bâtie, le leur permet. Moi, je trouve ça assez inquiétant, je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient là. Hein. Tout ce qu'ils ont déjà, tous les trucs, à chaque fois qu'ils ont passé un cliquet, j'ai l'impression que justement, il y a pas eu de retour en arrière.
Il y a quand même attention, parce que avec cette procédure un peu bizarre à la Pyrrhus, là, il y a quand même besoin d'avoir une majorité au Sénat, quand même. C'est quand même le Sénat qui fait la loi, puis l'Assemblée nationale qui vote la motion de rejet. Donc là, il se trouve, effectivement, comme vous l'avez très bien expliqué tous les deux, que c'est un alignement parfait de planète entre les macronistes et les républicains. Mais le jour où c'est sur un sujet qui diverge entre eux...
Ouais, ils sont avec qui au gouvernement, là?
Oui, alors attends, ils sont au gouvernement, mais ils ne sont pas d'accord sur tout, tout le temps.
Non, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais même si l'extrême droite arrive demain et que c'est les LR qui sont majoritaires au Sénat, moi, je ne vois plus trop de différence aujourd'hui entre les LR et l'extrême droite. Donc, ils disent qu'ils sont prêts, d'ailleurs, à travailler ensemble sur les sujets.
Mais là, je parlais des macronistes, je ne parlais pas de l'extrême droite.
Ouais. Bah, de toute façon, les macronistes, ils n'ont plus de scrupules non plus. Hein.
Bah, ça dépend des sujets, ça dépend des textes, et ça dépend sur quoi. Sur la proportionnelle, en tout cas, ils sont toujours pas d'accord, et je les imagine mal se mettre d'accord.
Mais oui, LR, ils veulent pas de la proportionnelle, oui.
Ah non, ils veulent pas en entendre parler. Non.
Les macronistes non plus aussi.
Laurent Wauquiez avait même fait monter le ton et tout en disant que si c'était limite un casus belli. Hein,
Il y a que Bayrou, le RN, LFI aussi qui veulent la
gauche,
proportionnelle.
La gauche. Sauf le PS, ils savent pas.
Je comprends pas pourquoi la gauche veut la proportionnelle.
Parce qu'elle a toujours voulu la proportionnelle. Parce que
même, on va se faire tarter.
On se fait déjà tarter.
Oui, mais au moins, avec le scrutin uninominal à deux tours, tu peux faire barrage, quoi. Là, on va se prendre une pelle.
Tu peux faire des barrages, tu peux faire une proportionnelle à deux tours. Hein.
Ah
oui, tu peux, comme les régionales, tu vois. Tu fais des fusions de listes, c'est possible. Alors, t'imagines les négos, ça va être très drôle.
Ah ouais.
Donc, pas de NFP au premier tour, négo au second tour.
Si c'est par département, putain, c'est sans négo.
Par département ou par région. Non, ça va être très, très drôle. Affaire à suivre, en tout cas, on verra si ça continue à être utilisé, cette bizarrerie législative. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, la situation à Gaza. Gaza, Emilio, toi, tu notes qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un moment Gaza, il y a un effet Gaza en ce moment.
Ouais, moi, j'avoue que je suis fatigué, là. J'avais l'impression depuis plus d'un an et demi qu'on était assez peu de médias, assez peu de personnalités. Dans le débat public a justement porté, c'est pas moi perso, hein, je veux dire, c'est juste une minorité de gens qui essayaient de ramer dans le désert, sous le cagnard, et que personne ne voyait ce dont ils parlaient. Et aujourd'hui, on commence à voir les germes d'un bouger. Ça fait 10 jours qu'on nous explique que finalement, c'est peut-être quand même pas hyper acceptable ce que fait Netanyahou. On a vu la une de Libé qui avait écrit quand même des trucs assez dégueulasses jusqu'ici, qui avait trouvé que par exemple l'affaire des explosions de Beeper au Liban, c'était juste une prouesse technique. Voilà. Et donc, même Libé fait titre pour dire que c'est inqualifiable, avec une tribune à l'intérieur de 300 écrivains et écrivaines, dont Leïla Slimani, Virginie Despentes, pour dire qu'il faut arrêter d'utiliser le mot horreur, mais dire ce que c'est-à-dire un génocide. On a vu qu'Olivier Faure, aussi le premier secrétaire du Parti Socialiste, utilisait désormais le mot génocide. On a l'impression que c'est le grand réveil, en fait, sur Gaza. Pourquoi? D'où ça peut venir? J'ai essayé de chercher, parce que au début, je comprenais pas. Je me disais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? D'un coup, ça y est, on était à 52 000, il y a eu 52 000 un mort, et ils se sont dit, ah, ça y est, ça c'est le mort de trop.
C'est la question que je voulais te poser.
Il y a déjà, je pense, le fait que Macron a bougé et que début juin, il est théoriquement censé, même si on attend de voir, reconnaître l'État de Palestine dans un événement à l'ONU co-présidé avec l'Arabie Saoudite. Il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le fait que maintenant, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vraiment mis en lumière avec ce nouveau plan là de humanitaire pour nourrir les Gazaouis. En fait, ils les nourrissent pas. Justement, ils ont bloqué l'accès des camions à Gaza. Ils en sont rentrés quelques-uns pour dire mais non, regardez, on capte pas.
J'allais te demander, c'est quoi la situation humanitaire sur le terrain justement?
Eh ben, ils ont justement ouvert hier la première distribution alimentaire dans un coin paumé de la bande de Gaza, c'est-à-dire tout au sud, vraiment à côté de Rafah, à côté de la mer, sur un terrain vague, etc. Donc loin aussi de là où il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a 2 millions de personnes, hein, il faut le dire. Et donc,
c'était une catastrophe.
C'était une catastrophe. Mmh. Il devait distribuer. Voilà, il mettait plein de conditions, reconnaissance faciale, etc. Ça a été une catastrophe. Il y a eu un mort, il y a eu énormément de blessés. Donc la situation.
Bon, ils ont fait tout ce que les humanitaires disent qu'il faut pas faire, quoi. D'accord. Mais ils l'ont fait. L'idée, c'était de faire vraiment une opération pour dire c'est nous qui allons faire l'humanitaire, parce que sinon le Hamas, je sais pas quoi. Et donc avec quelques gros bras, y compris de services de sécurité privés américains, ouais. Qui ont été dépassés aussi, qui ont fini par fuir, parce qu'ils ont appelé les gens à l'avance sur les réseaux en disant. La distribution aura lieu là, normalement tu le fais pas, tu fais plusieurs points de distrib, tu le préviens pas les gens à l'avance, sinon tu vas avoir un effet de mouvement de foule énorme. Et après, ils avaient même carrément des petits questionnaires. Avez-vous été satisfait de cette distribution? La recommanderiez-vous à quelqu'un? C'est lunaire, c'est lunaire. Ils ont organisé ça de manière lunaire
Netanyahu
et pris
lui-même.
Des photos magnifiques de leur belle distribution, qui s'est pourtant super mal passée.
Et Netanyahu lui-même a reconnu avoir perdu de façon momentanée le contrôle de l'opération. Pour que Netanyahu en vienne à reconnaître, c'est que c'était vraiment un immense fiasco. Et en fait, je pense que la communauté internationale, mais pas que, les médias français, les responsables politiques, voient ce qu'ils n'ont pas voulu voir pendant un an et demi. C'est-à-dire que le Hamas n'était qu'une excuse pour eux, pour mener ce plan génocidaire et qui a été taillé par les déclarations que je ne dirai pas là parce qu'elles sont trop insupportables à entendre, de nombreux ministres qui veulent détruire la bande de Gaza, la récupérer pour en faire je ne sais pas quoi, déplacer les Gazaouis, etc. Donc aujourd'hui, il y a cette prise de conscience. Alors je suis fatigué, mais elle est bienvenue, cette prise de conscience, et parce que il n'y a que ça qui peut faire bouger les choses.
Clay Marx, pourquoi est-ce que toi tu penses qu'il y a ces changements de revirement chez certaines personnalités?
Honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que peut-être, en fait, au bout d'un moment, on arrive tellement à un niveau de à la fois d'horreur et à la fois d'opinion publique qu'à un moment, c'est plus possible. Je pense que, enfin, maintenant, c'est intenable, quoi. Enfin, j'ai vu le documentaire de, comment il s'appelle, Louis Theroux, vous voyez, de la BBC, qui a fait un documentaire qui s'appelle Settlers sur les colons en Cisjordanie. Et c'est terrifiant. Enfin, il y a un peu un truc de, c'est plus que terrifiant. Enfin, c'est les discours des colons là-bas sont, enfin, c'est, il n'y a pas de doute. Enfin, après, enfin, ne pas parler de génocide.
Et depuis le début, hein.
Ouais, ouais.
Le discours à connotation génocidaire, c'est depuis le début.
Ah, enfin, oui,
depuis
le début.
Depuis déjà très longtemps.
Mais le fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a une attention. Enfin, maintenant que ces discours, quand ils sont comme ça mis dans les médias et publics, ils retentissent, quoi.
Mais lisez l'article du Monde, d'ailleurs, qui est sorti la semaine dernière, un article qui compile justement toutes ces déclarations publiques à connotation génocidaire, mises bout à bout. C'est vraiment une dinguerie. Si vous pouvez le lire, lisez-le.
Moi, je suis d'accord. C'est bien qu'il y en ait qui se réveillent. Il y en a qui se rachètent une race à peu de frais aussi, moi, je trouve, dans l'affaire.
Ouais.
Parce que ce qu'il faudra interroger. Là, bon, c'est normal, en fait, d'être choqué par ce qui est en train de se passer. Il y en a qui avaient dit que ça allait se passer comme ça, on les a pas écoutés, d'accord. Maintenant, moi, ce que j'aimerais aussi qu'on s'interroge, nous, dans la société française, c'est aussi. Pourquoi jusque-là ça tenait? Pourquoi jusque-là les mensonges du gouvernement israélien n'ont pas été interrogés, ont été relayés mécaniquement, y compris sur les plateaux? Quelles sont les causes de cet aveuglement? Qui sont aussi les coupables de cet aveuglement? Il va falloir aussi qu'on s'interroge. Comment on a pu tolérer ça? Comment on a pu tolérer ces discours-là? Et qu'est-ce qui nous a rendu perméables à ce niveau de discours de haine? Et je pense que là, avec la séquence sur les frères musulmans, etc., machin, je pense que l'islamophobie en France est aussi responsable, a rendu aux élites françaises plus tolérables le massacre à Gaza.
Ah, mais
parce que
sûr.
Dès le début, on a fait des liens entre, mais oui, mais le Hamas, en fait, c'est comme Al-Qaïda, puis en fait, c'est comme nos attentats à nous, en fait, tout ça, c'est pareil, tout ça, c'est, vous voyez, c'est des islamistes. Et alors là, en France, il suffit qu'on te dise c'est des islamistes, et là, tu deviens fou, tu fais très bien, tu les tous. Ok, très bien.
Oui, y avait,
c'est ça qui s'est passé.
Il y avait quand même une grande partie, c'était de la politique intérieure sur le discours sur. Au début, ce qui se passait, c'était en fait des discours de politique intérieure. C'était regarder les terroristes islamistes attaquent les occidentaux civilisés, etc. Et c'était une manière de justifier des discours islamophobes et des politiques sécuritaires ici en France, quoi.
Exactement. Et ça, on l'a dit très vite dans Baxit.
Déjà à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi l'utilisation de la faim comme arme de guerre qui fait bouger les choses? Est-ce que c'est cette nouvelle méthode utilisée? Alors, elle n'est pas si nouvelle que ça, parce qu'elle était déjà utilisée avant, Emilio?
Disons que, en fait, quand on envoie des bombes et que le gouvernement dit c'est pour tuer le Hamas, je pense que de façon cognitive, et les gens qui disent ouais oui, en même temps c'est vrai, ils servent de bouclier humain, etc. Qui peuvent gober ça parce que c'est relayé. Là, quand en fait on affame des enfants, je pense que c'est con, hein, mais il y a un réflexe aussi humain qui fait que les gens se disent ah ouais non, c'est peut-être quand même pas ouf. Mais c'est clair que cette arme de la faim, c'est une nouvelle étape. Mais faut pas oublier que les bombardements continuent. On a appris aujourd'hui, notamment la mort de l'une des, une, alors c'est bizarre de dire ça.
Si noire.
D'une gamine de 11 ouais. ans, voilà, qui était l'influenceuse de la plus connue de Gaza, qui a été bombardée avec sa famille et qui est morte là. C'était la star de Gaza. Il lui restait plus que ça. Je sais plus si c'est elle qui faisait de la cuisine, mais enfin, pardon, c'est. Mais voilà, enfin, quand on en arrive là, quoi.
Il y a d'anciens premiers ministres aussi en Israël qui ont pris la parole pour dire « mais moi, je ne peux plus défendre là. Jusque-là, même le mot génocide, j'esquivais en disant « non, les conditions ne sont pas exactes ». Mais là, on y est.
On rappelle,
faut arrêter tout de suite parce qu'on va finir devant le tribunal international de La Haye. En fait, là, il y a des gens dans la société israélienne qui s'en rendent compte. Et il y a une autre partie de la société israélienne qui a complètement vrillé et qui trouve ça très normal et qui est pour qu'on continue parce que vu qu'on est dans la lancée, allons-y. Il
faudrait quand même rappeler que la situation politique en Israël est un peu particulière, c'est-à-dire que la coalition au pouvoir, c'est une coalition entre Benjamin Netanyahou, la droite historique, et l'extrême droite, qui est contestée dans la rue par un mouvement massif de plusieurs centaines de milliers de personnes qui contestent la dérive extrême droitière du gouvernement. Or, ce gouvernement est en train de mener la guerre injuste, que vous savez, à Gaza, avec les méthodes qui sont les leurs, et on sait que c'est l'extrême droite qui fait pression sur Netanyahou pour qu'il continue cette guerre-là. Dès l'instant où l'extrême droite se sépare de Netanyahou, ils sont obligés d'organiser des élections et Netanyahou est sûr de perdre. Voilà pourquoi Netanyahou fait de la surenchère à l'extrême droite.
Ouais. Il se trouve que j'y suis allé, j'étais en Israël il y a 2 mois, au moment où Jordan Bardella était invité en grande pompe à une conférence contre l'antisémitisme pour laver toutes les horreurs de son parti. Et donc j'y suis allé, j'ai couvert les manifestations, une particulièrement à Jérusalem. Et c'était il y a 2 mois, la société israélienne elle a bougé. Quand je suis arrivé dans la manifestation, j'ai parlé à plusieurs évidemment personnes israéliennes qui étaient là. Une femme m'a dit, vous allez voir, en remontant dans le cortège, qui n'était pas très très grand, plus vous allez avancer, moins la question des Palestiniens va se poser. C'est-à-dire qu'à l'arrière du cortège, les gens, ils étaient à la fois en défense des Palestiniens, aussi demandant le retour des otages, et contre la guerre, et contre la réforme judiciaire de Netanyahou. Parce qu'en fait, c'est un millefeuille.
C'est la réforme de justice, ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte, et ce qu'elle m'avait dit était vrai, plus je suis avancé dans la manifestation, plus en fait la question des Palestiniens, l'empathie avec les Palestiniens disparaissait. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on arrive en tête de cortège, il n'y avait plus que la question des otages. C'est la question des otages qui cimentait tout ce mouvement. En fait, c'est des gens qui manifestent ensemble, parce que la question des otages, sinon ils sont pas d'accord sur le reste. C'est-à-dire qu'il y avait même des juifs intégristes qui étaient dans ces manifestations parce qu'ils considéraient que le gouvernement Netanyahou mettait en danger la vie des otages. 2 mois après, ce mouvement-là, il a pris beaucoup plus d'ampleur, aussi parce qu'il y a davantage d'informations qui est donnée à la population israélienne. Il faut savoir que moi j'ai rencontré plein de personnes, notamment de la gauche israélienne sur place, qui me disaient tout simplement les gens, les Israéliens, ne sont pas au courant de ce qui se passe derrière les murs de Gaza, tout simplement parce que les médias israéliens ne le relaient pas. Et ça, c'est une guerre d'information aussi, et qu'en fait la propagande du gouvernement israélien, elle est relayée ad nauseam sur les chaînes israéliennes, qui ne montrent pas ce qui se passe réellement, à la fois dans les colonies en Cisjordanie, où le gouvernement israélien n'a pas l'excuse du Hamas, et qui continue la colonisation, aussi pour s'approprier les ressources, notamment en eau, et de l'autre côté du mur de Gaza, où sont persécutés plus de 2 millions de personnes.
Il y a des gens dans le chat qui demandent si Internet est coupé là-bas ou filtré.
Non.
Donc sur Internet, tu peux avoir accès aux infos. Encore faut-il y aller. Hein.
En fait, le problème, c'est que la plupart des médias israéliens sont aujourd'hui quasiment en soutien inconditionnel à ce qui se passe ce qui est mis en place par le gouvernement de Netanyahou. À part le journal Haaretz, qui est un journal de gauche, c'est le seul, et même eux, ils se font taxer. C'est-à-dire qu'à la conférence sur l'antisémitisme, moi, j'ai pas pu rentrer parce que le gouvernement israélien m'a retiré mon accréditation. Il ne voulait pas que je participe, mais j'ai évidemment discuté avec mes confrères et consœurs qui, eux, ont le droit de rentrer. Et puis j'ai vu parce qu'elle était diffusée. Et par exemple, le gouvernement israélien a étaient extrêmement virulents avec le journal Haaretz, qu'ils ont accusé d'antisémitisme. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la contestation du gouvernement israélien est assimilée à l'antisémitisme, y compris pour les gens... ces accusations visent aussi des journaux israéliens eux-mêmes. Enfin, c'est une dinguerie ce qui se passe.
Il y a une partie de la population qui, en effet, tolère la violence. Alors, souvent, on dit parce qu'il y a eu le choc du 7 octobre et que donc, du coup, derrière, la violence vengeance est plutôt bien perçue. Mais c'est une société qui est violente. De toute façon, c'est une société de soldats, c'est une société où on fait son service militaire, et puis même si on. Sinon, ça va être ton fils, enfin, tu connais quelqu'un dans l'armée, c'est une société qui est militarisée.
Plus que ça, c'est que moi, je suis arrivé, je suis monté dans le train en sortant de l'avion, et en face de moi, j'avais une femme habillée en civil. Et je m'en étais pas rendu compte, j'avais un fusil d'assaut pointé sur moi. Alors là, elle le portait en détente, hein. C'était sûr. Mais en fait, j'avais le canon du fusil qui était vers moi. Et en fait, des armes, tu en croises partout, tout le temps en Israël.
C'est un autre rapport à la violence.
Et s'ajoute à ça les alertes, en fait, aux missiles aussi qui sont permanents parce qu'il y a les outils au Yémen qui tirent. Et donc, en fait, vraiment, j'ai eu deux alertes aux missiles. C'est-à-dire que tout le monde est censé aller aux abris, etc. Et en fait, ça rend aussi des sociétés parano, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on voit sur les visages, les gens pleurent. En fait, c'est une société qui est agressée et qui agresse, en fait. Qui ne connaît que la violence.
Et puis il y a une déshumanisation totale des Palestiniens et des Palestiniennes, quoi.
Ça pose vraiment la question d'après, quoi, parce que là on commence à parler d'État paria, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que là ils avaient carrément complètement coupé l'aide humanitaire et plus rien rentré à un moment. C'est là où on a commencé à dire vraiment Israël se met dans la position de mais plus personne ne va te parler, en fait. Là c'est trop obvious, tu vas devenir un État paria.
Il y a toujours les États-Unis d'Amérique, c'est toujours le problème.
Oui, mais même là,
d'ailleurs c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que la reconnaissance par la France de l'État palestinien va changer quoi que ce soit, vu que les États-Unis continuent à refuser de le reconnaître? C'est-à-dire, quand on regarde une carte du monde de qui reconnaît l'État palestinien, t'as l'ensemble de la planète, à l'exception des pays occidentaux les plus puissants, États-Unis, Allemagne, Europe de l'Ouest, et encore pas toutes.
Oui, l'Espagne.
Japon, etc. Donc, non, je sais pas si la solution politique, que peut faire la France, en fait, c'est un peu ça ma question.
Ah bah, on va en parler avec Chloé Ridel, à mon avis, après, parce que ça peut se discuter notamment au niveau européen, et que voilà, il y a le partenariat Europe-Israël, c'est, j'avais lu, 30% des volumes d'échanges d'Israël, c'est avec l'Europe. Si tu commences à attaquer là-dessus, il va falloir qu'ils réagissent aussi. Enfin, c'est même honteux qu'on n'ait pas déjà commencé à le faire, ça fait quand même longtemps que ça traîne, cette histoire.
Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. On continue, chers amis. Je vais vous proposer un truc sur le plateau. Est-ce que vous avez d'autres sujets d'actu qui vous tiennent à cœur?
Gabriel Attal.
Mais parlons de Gabriel Attal, si tu le souhaites. On a un peu de temps, en fait. On a un peu de temps.
Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, là. C'est Gabriel Attal, je ne sais pas, il me rend fou.
Qu'est-ce qui devient Gabriel Attal?
Il me rend fou. Bah là, il y avait une
réunion. Alors, il a encore fait une sortie anti-jeune, je crois. C'était je ne sais plus quoi.
Parce que moi, j'aurais dit les commissions d'enquête, mais vas-y, parle de Gabriel Attal.
Ouais,
vas-y.
La loi du plomb.
Bah ouais, parce qu'il a une nouvelle proposition. Il a égrené ses propositions devant son groupe parlementaire. Il y avait une réunion de groupe, et apparemment, j'ai lu ça dans Libé, chez Paul, tout à l'heure. Ça a été un peu compliqué parce que tu as un tiers de son groupe qui est là. Mais pourquoi tu parles là-dedans? Dans les nouvelles propositions d'interdiction du voile au moins de 15 ans, etc. Le mec, il a eu son moment de gloire avec la Baïa, et il se dit ça va être mon truc. Enfin, le niveau de médiocrité pour en venir à se poser en protecteur de la jeunesse.
La Baïa pour les jeunes, son truc anti-jeunes, c'est ça. L'interdiction du port de la Baïa en dessous de l'âge de 15 ans, je crois.
Non, c'est pas la Baïa, là, c'est le voile.
Non, la Baïa, c'est quand il était ministre de l'éducation. C'est quand il était ministre de l'éducation nationale, et quand il fait sa rentrée, la seule rentrée qu'il a fait, il a décidé, comme première décision, comme acte politique à l'éducation nationale, d'interdire la Baïa, du sujet de la rentrée.
On en avait parlé sur Backseat, je m'en souviens maintenant, abonnez-vous.
Et voilà, et apparemment ça, à l'intérieur c'est plutôt accueilli, voilà, il y a un tiers d'enthousiastes, un tiers qui est assez indifférent, et un tiers qui se dit mais c'était pas ça le macronisme, et il est un peu ridicule à faire ça, quoi. C'est un peu méprisable comme manière de faire, en se disant tiens, en ce moment le vent est plutôt, un mec qui vient du PS en plus, tiens en ce moment le vent c'est plutôt faut faire des trucs sur les musulmans, ça marche bien, comme ça je serai repris sur CNews, comme ça je serai au cœur du débat, on va parler de moi, machin. Et c'est vrai que c'est méprisable, quoi. Voilà, j'avais envie de râler sur Attal.
Il fait énormément de TikTok aussi.
Ouais, non mais voilà, il y a quand même...
Énormément.
Il y a quand même des politiques plus médiocres que les autres, je trouve. Et ça vaut le coup de le souligner.
Oui, tous les camps politiques ont leur dose de médiocrité.
Oui, 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 c'est pour ça que là, je parlais d'un mec précis. Je condamnais pas.
Macroniste, c'est particulier.
Notre rôle macroniste, décidément.
Toi, tu voulais parler de quoi
Non, moi, moi, le truc qui m'énerve en ce moment, c'est les commissions d'enquête. En fait, c'est pas les commissions d'enquête en elles-mêmes, c'est la réaction qu'elles suscitent.
Oui,
les paniques qu'elles suscitent, notamment.
Alors, tu peux rappeler quand même.
Dans la droite, ouais. Le point de départ, c'est qu'en fait, à l'Assemblée nationale et au Sénat, les parlementaires ont la possibilité de créer des commissions d'enquête pour enquêter sur des sujets à partir du moment où ça n'empiète pas sur la justice, une affaire judiciaire en cours. C'est un outil constitutionnel de contrôle de l'action du gouvernement, de l'exécutif. C'est une action de contre-pouvoir aussi vis-à-vis des milieux économiques. Et donc, c'est un droit qui a été consacré en 2008 par Nicolas Sarkozy au moment de la réforme constitutionnelle qui dit que les groupes d'opposition et minoritaires ont le droit à une commission d'enquête par an. Ça s'appelle le droit de tirage. C'est eux qui choisissent le sujet de leur commission d'enquête. Et il se trouve que ces derniers temps, vous l'avez vu, il y a énormément de commissions d'enquête qui sont médiatiques. Il y a celle qui concerne les violences scolaires post-Betaram. Ça, c'est pas une commission d'enquête droit de tirage. C'est la commission des affaires la commission d'éducation culture, nationale éducation. Et culture qui s'est transformée en commission. Mais il y en a d'autres. Il y a la commission sur les élections, l'organisation des élections.
La tenue des élections.
D'Antoine Léaumont qui voulait inviter le milliardaire d'extrême-droite Pierre-Edouard Stérin qui ne s'est pas pointé. Au Sénat, alors, il y a celle il se trouve que c'est le sénateur communiste qui était aussi directeur de l'UMA, Fabien Gay, qui fait les aides publiques, le bilan des aides publiques aux entreprises. Il y a celle de Benjamin Lucas, l'écologiste, sur les licenciements et l'inaction de l'État face à la vague de plans sociaux, etc. Il y en a beaucoup. Il y a eu l'affaire McKinsey qui avait donné lieu à des... Donc il y en a beaucoup. Elles sont extrêmement médiatiques. Et on a vu aussi après les réactions que ça suscitait. C'est-à-dire que les macronistes, notamment les modems après l'audition de François Bayrou, criaient au procès politique, au stalinisme. On a vu des médias comme les Échos, comme CNews, évidemment, le Figaro embrayer en disant que c'était des pièges, que c'était des procès politiques, etc. Des patrons qui refusent de s'y rendre ou qui font tout un tintouin pour dire qu'en fait ils sont des cibles politiques. Tout ça, ça vise à décrédibiliser le rôle des parlementaires. Et je voulais juste moi rappeler à quel point c'est important d'avoir ce contre-pouvoir, parce qu'en fait ils font émerger des sujets, ils mettent la lumière sur des sujets extrêmement importants et ils font émerger la vérité. Pourquoi ? Parce que dedans, les personnes, un, sont obligées de se pointer en théorie, pour être auditionné, et deux, ils n'ont pas le droit de parjurer, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de mentir sous peine de sanction. Et donc, normalement, c'est la vérité qu'ils sont censés dire. Et quelle vérité, par exemple, dernièrement, on a eu ? Eh bien, il y a eu la commission Nestlé sur les eaux minérales, sur comment Nestlé Waters s'est arrangé avec l'Élysée, en gros, pour faire en sorte que les normes, on en revient aux normes, qui s'imposent aux eaux minérales, ne s'imposaient pas vraiment à elles, et de pouvoir contourner un immense scandale sanitaire. C'était une commission qui était tenue par le sénateur socialiste Alexandre Ouizy, après la mission d'information d'une sénatrice écologiste Antoinette Gull. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement important pour la démocratie.
Ouais. Mais Alexis Keller, il n'est pas venu à cette commission.
Et la justice lui a donné raison.
Exactement. Et donc là, on voit que... Moi, c'est très intéressant, parce que moi aussi, je les entends monter, ces discours. Mais pas seulement, tu parlais de CNews. Moi, j'écoute beaucoup le service public. C'est relayé aussi assez mécaniquement aussi par, j'ai envie de dire, les petits télégraphistes macronistes du service public aussi, qui continuent et qui, pareil, hein, c'est vrai, il y a trop de commissions d'enquête. Hein. Et est-ce que ce n'est pas des fois l'occasion pour les oppositions, en fait, de se montrer, de se faire voir, qu'on parle de... C'est ça, le niveau d'analyse politique de ces gens-là.
Aussi. Hein, c'est vrai aussi, ils choisissent des sujets.
Oui, non, mais d'accord, mais ne dire que ça sur les commissions d'enquête, alors que au contraire, bon, on voit qu'il y a un intérêt du public pour ces commissions d'enquête depuis surtout la commission Benalla, la commission sur l'affaire Benalla, où on avait l'impression que bah ouais, le président avait dit qu'il vienne me chercher, bah très bien, bah qu'est-ce qu'on fait ? On fait au moins ça, on fait au moins une commission d'enquête, on essaye au moins de faire vivre le débat. C'est quand même un des lieux où on dit des choses qu'on ne dit pas ailleurs, où on reçoit des personnes qui n'iraient pas ailleurs. Et là, justement, ces personnes-là, donc les puissants, sont en train de faire un bras de fer. Ça emmerde les puissants. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de ce truc. Là, ces commissions d'enquête commencent à emmerder les puissants et les défenseurs des puissants dans les médias aussi, qui relaient aussi leur. Et les macronistes aussi, ça les emmerde.
Mais même Braun-Pivet, elle a dit qu'il y en avait peut-être un peu trop.
Et oui, Braun-Pivet l'a dit. Ouais.
Et toi, Climarc, est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur lequel tu voulais parler?
Non, bah j'ai parlé des questions des violences sexuelles, notamment sur mineurs. Du coup, je vais peut-être pas tout redire ce que j'en ai parlé. Je dirais juste que en ce moment, enfin, j'espère vraiment que tout ce qui se passe, ça va nous faire prendre conscience à l'échelle, qu'on se rende compte en fait, encore une fois, que les que la, comment dire, que l'ampleur de ce qu'on voit sur les violences, ça va nous faire prendre conscience que c'est pas des faits isolés et que c'est pas des c'est pas bizarre en fait que qu'on se rende compte qu'il y ait autant de violences qui sont commises dans des milieux comme Betaram, au sein de l'hôpital, etc., etc., et qu'on va vraiment prendre conscience qu'à partir du moment où on donne du pouvoir à des hommes, les hommes violent des enfants. Voilà. Littéralement.
Merci Climax, on va faire une pause, vous pouvez l'applaudir, on va marquer une petite pause.